Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les discours dans les narratifs, ils donnent un effet assez particulier. Ça marche? Ok. Ils donnent un effet assez particulier, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, surtout dans les textes narratifs, les discours fonctionnent pour zoomer sur ce qui est important. Toute action est importante. Toute l'action qui est importante est dans ces dialogues-là. C'est comme les films aujourd'hui. Il y a beaucoup d'action, il y a des effets, il y a tout, tout, tout. Mais d'un moment, il y a un dialogue, ça commence à être plus lent, ça ralentit. Pardon. Test, test. Voilà. Ok, un peu trop. Donc, s'il y a des dialogues dans les films, on a des zooms sur les visages, ça ralentit et ça donne les moments les plus importants dans les films, n'est-ce pas? C'est le même cas dans les textes narratifs de la Bible. Donc, petite astuce, réparez bien les dialogues quand vous faites l'étape d'observation. Maintenant, vous pouvez, je vous invite à rouvrir les Bibles et à Genèse chapitre 1, parce qu'on va travailler à Genèse chapitre 1 aujourd'hui. Hier, on n'a pas beaucoup travaillé le texte de Jonas, mais aujourd'hui, c'est l'opposé, ce n'est pas le cas. Donc, il vaut le coup d'avoir Jonas ouvert devant vous ce matin. Donc, déjà, on a le nom de Jonas, on a trouvé qu'il est le fils d'Amittai. On a vu en 2 Rois 14 qu'il est cité qu'une seule fois hors de ce livre de Jonas. Et puis à verset 2, on a un commandement. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc l'Éternel a demandé trois choses de Jonas. Il doit se lever, il doit aller à Ninive, et il doit crier contre cette ville. On a la commande, c'est d'aller crier contre la ville de Ninive. Et l'Éternel, il donne la raison pour y aller, c'est parce que cette ville, sa méchanceté est montée jusqu'au Dieu, jusqu'à l'Éternel. C'est-à-dire, c'est une ville qui est si contre Dieu, une ville qui est si réputée pour leurs actes de mal, que l'Éternel ne supporte plus. Dans le contexte de l'alliance dont on a parlé hier, Ninive ne fait pas partie du peuple d'Israël. Ils ne se sont pas dans l'alliance. Du coup, c'est un peu bizarre qu'un prophète de l'Éternel ait appelé à aller vers une autre nation pour leur annoncer le jugement de l'Éternel. Normalement, c'est au peuple d'Israël que les prophètes parlent. Normalement, c'est pour les faire souvenir de l'alliance, c'est pour leur appeler à revenir à l'Éternel, pour leur appeler de se tourner à nouveau vers l'Éternel, le Dieu d'alliance. Parce que c'est un appel qui existe dans le contexte d'une relation qui existe déjà, l'alliance entre l'Éternel et son peuple. Mais ici, on a un cas un peu bizarre. Un appel contre une ville qui est hors de l'alliance, mais une ville qui est réputée pour sa méchanceté. On ne connaît pas encore le message accordé à Jonas, à délivrer à Ninive. La parole de l'Éternel est seulement de crier contre elle. Ce mot-là, crier, c'est très intéressant. On va revenir sur ce mot tout à l'heure. Mais dans ce contexte, d'un prophète qui crie contre quelque chose ou quelqu'un, on estime que c'est un message de jugement quand même. C'est bien dans le cahier de charge pour un prophète de dénoncer le mal, mais est-ce que vous pouvez imaginer le faire? Qu'est-ce qui va se passer? En arrivant dans une ville pleine de méchanceté, vous arrivez et vous dénoncez leur iniquité. Ils vous répondent comment? Pouvez-vous le faire à ces jours-là? Arriver, par exemple, peut-être à Paris, pour leur annoncer le jugement de Dieu, ça va se passer comment? Avec un tel appel de l'Éternel, avec une telle tâche, comment réagissez-vous? avec l'impatience de le faire, peut-être avec hésitation. Et Jonas, comment Jonas a-t-il réagi? Verset 3. Jonas se leva. Check, première chose, il se leva. L'Éternel dit, lève-toi, il s'est bien levé. Verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Ah, ça, ce n'est pas la bonne réponse. Il nous faut une carte. Est-ce que ça marche? La souris ne marche pas. Ah, si, 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 voilà. Voilà, ça c'est la région géographique. Donc Jonas, il est prophète ici, de ce côté-là, en Israël. Ça c'est la ville de naissance, Gath Hépher. Il est prophète ici. Et Ninive, c'est en Assyrie, là. Et Tarsis, on ne sait pas exactement où se trouve Tarsis, mais c'est possible que ce soit là. Et ce n'est pas dans la bonne direction du tout. Soit Jonas, il est nul avec les directions, il n'y avait pas de Google Maps à cette époque-là, soit il se rebelle contre l'Éternel. Mais le but de son voyage est donné et renforcé avec une répétition. Il s'est enfui à Tarsis pour s'échapper de l'Éternel, pour être, verset 3, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, Joppé, Joppa, comme vous voulez. Il a trouvé un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix de transport à son barca pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Le narrateur est très clair avec le but. Jonas veut s'échapper de l'Éternel. Cette idée de la présence de l'Éternel est très importante pour ce chapitre. Ce chapitre, et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais pour l'instant, on continue avec l'histoire. Pour aller à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel, il doit traverser la mer. En fait, la mer agit dans cette histoire un peu comme un personnage, on peut dire. Chez le GBU, on adore poser cette question. Quels sont les personnages principaux du texte? On aime bien poser cette question, mais c'est une bonne question. Et on a déjà rencontré l'Éternel, on a rencontré Jonas, fils d'Amittai, et maintenant on a le personnage de la mer. Et les personnages, parce qu'il y a une interaction entre la mer et les autres personnages. Vous voyez, depuis le commencement de la Bible, la mer existe comme une image de ce qui est en dehors de l'ordre de Dieu, une image de désordre, une image de chaos. L'image du deuxième verset de la Bible est une opposition entre le chaos représenté par la mer ou par l'eau et Dieu, le Créateur. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres là à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. La mer est l'image du chaos. Mais Dieu, il est si puissant qu'il règne même sur la mer. Il a créé la mer. Il a créé la terre depuis la mer. Son contrôle sur la mer montre sa puissance. Et cette puissance atteste qu'il est créateur. Comme dit-il, psaume 89, verset 9. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. La mer est bien présente dans ce chapitre de Jonas. J'ai compté 11 fois. C'est partout dans ce chapitre. C'est vraiment comme un personnage du texte. Donc l'image de la mer est l'image de chaos qui s'oppose au contrôle de l'Éternel. Revenons au verset 3 et sa répétition. Les répétitions dans le texte de l'Ancien Testament sont très importantes. Elles fonctionnent pour souligner quelque chose. Ici, ce que la répétition souligne, c'est que le but de Jonas est d'être loin de la présence de l'Éternel. Vous paraît-il bizarre qu'un prophète de Dieu veut s'enfuir de la présence de l'Éternel? Il me paraît bizarre, premièrement, parce qu'il est prophète, c'est son boulot de servir Dieu, mais deuxièmement, ne connaît-il pas Dieu? Ne connaît-il pas qu'il ne peut pas s'échapper de la présence de l'Éternel? C'est une énigme. Pourquoi pensez-vous qu'il essaie de s'enfuir de la présence de l'Éternel?
Ça, c'est une vraie question. Je vous donne une minute pour discuter avec le voisin à cette question. Pourquoi pensez-vous qu'il essaie de s'enfuir de la présence de l'Éternel? C'est à discuter. Allez-y. J'aimerais bien écouter quelques idées. Vous avez déjà quelques idées? Paul, t'as une idée? Il est raciste, c'est possible. Il n'aime pas les autres gens des pays loin d'Israël. Ouais. Mais ça n'explique pas pourquoi il s'enfuit de la présence de l'Éternel. Ouais. Ouais, Nathan.
Peut-être aussi le fait qu'en en fait il connaît très bien Dieu et qu'il peut-être il sait que c'est potentiellement la meilleure méthode, même si il s'est peut-être envie que ça ne va pas marcher.
Ouais, ouais. La meilleure méthode.
La meilleure méthode pour ne pas faire ce qu'il
veut. Ouais, ouais, ok. Ouais. Laetitia.
Peut-être qu'il pense que Dieu il est beaucoup plus présent dans le temple et à Jérusalem.
Ouais, ça c'est possible aussi. Ouais. En fait, c'est une question que je vous laisse à résoudre au fur et à mesure. Je ne réponds pas exactement maintenant. À l'époque de Jonas, comment fonctionnait-il le système religieux parmi les nations autour d'Israël? C'était une sorte d'énothéisme. On connaît peut-être le polythéisme. Polythéisme. Si ça arrive. Hop, voilà. Voilà, polythéisme. On connaît peut-être déjà ça, une religion où on accepte ou on loue plusieurs dieux. Ou alors le monothéisme, où on loue qu'un seul dieu. Le énothéisme, c'est un peu entre les deux. Ça veut dire une religion où on loue un seul dieu, mais sans niant l'existence des autres dieux. Un système où on accepte l'existence des autres dieux, mais on ne les loue pas. Dans le monothéisme, on dit qu'un seul Dieu existe, mais dans le énothéisme, on dit que plusieurs dieux existent, mais on loue notre Dieu seul. C'est donc le système qui était autour d'Israël à cette époque-là. Et c'est aussi un système qui est très territorial. Chaque pays a son propre Dieu, et ce Dieu est puissant sur ce territoire-là. Ça, c'est le milieu dans lequel Jonas se trouvait. C'est pourquoi, au verset 4, il dit que les marins implorent chacun leur Dieu. Au moment où tu es dans la détresse, tu appelles à ton propre Dieu. Ton propre Dieu a la responsabilité pour ta sécurité, si tu lui plais. Mais si tu es dans une zone hors de contrôle de ton Dieu, si tu es dans la mer, qui n'appartient pas à ton Dieu, qui est une zone, une sorte de no man's land, un espace de chaos, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi la mer était vue comme quelque chose de dangereux à l'époque. Les marins, qui ont l'habitude de traverser la mer, ils ont peur de la mer. Verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de les léger. Les marins agissent pour sauver leur vie face à la menace de perdre la vie. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Jeter les objets dans la mer, il vaut mieux de perdre les biens que la vie. ils implorent chacun leur Dieu. C'est un moment de détresse. Ils sont entrés dans la zone de chaos. Ils ne savent quoi faire. Et pendant tout ça, où se trouvait Jonas ? Encore en verset 5. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Ah, la culpabilité, ça fatigue. Hein. La capitaine s'approcha de lui. « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Il est possible qu'il existe un Dieu qui peut écouter même du milieu de la mer. Il estime qu'il y a une raison surnaturelle pour ce malheur, une supposition assez courante à cette époque-là et aussi pour la plupart d'histoires. » Verset 7. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons un sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Donc c'est bien Jonas qui est le coupable de ce malheur. Mais pourquoi ? Ils cherchent à discerner pourquoi. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?» Toutes ces questions importantes. Si tu es la source de ce problème, alors qui es-tu ? Il répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Voici l'information très importante. Il est hébreu. Il fait partie du peuple de Dieu, de l'Éternel, avec tout ce qui était associé avec cette réalité. Mais il ajoute, « Je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Dans un milieu où on croit que la mer est une zone de chaos, une zone où il n'y a pas de Dieu qui peut agir, Jonas parle de l'Éternel, le Dieu qui a fait la mer et la terre. Ils ne sont pas dans une zone de chaos. Ils sont bien dans la mer que l'Éternel a créée, la mer qui appartient à l'Éternel. Qu'est-ce qui est pire que habiter dans un monde dirigé par hasard ? C'est de vivre dans un monde qui est dirigé par un méchant ou par quelqu'un qui t'oppose. Pour les marins, ils avaient cru qu'ils étaient dans la zone de chaos. Ils viennent d'apprendre que la situation est encore pire que ça, que Dieu, qui a même créé la mer, c'est lui qui s'oppose à Jonas, qui s'oppose à eux. Mais apparemment, Jonas craint ce Dieu. Il dit, je crains l'Éternel. Cette crainte de l'Éternel provoque une réaction chez les marins. Verset 10. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de lui et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela ? Ils comprennent la situation. Ils comprennent le poids de la situation mieux que Jonas. Ils ont eu peur de la mer d'un premier coup, mais plus grave que ça, c'est qu'ils ont confronté par le Dieu créateur, le Dieu qui a la puissance même sur la mer. Ils ont peur de la peur de Jonas. Jonas qui est le prophète de l'Éternel, mais le prophète désobéissant, celui qui est la porte-malheur envers eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il pose cette question à Jonas, verset 11. Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Et Jonas répond, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. La réponse de Jonas est une résignation à son destin. Il a essayé de s'échapper de l'Éternel. Il s'est enfui de loin de la présence de l'Éternel, et en s'enfuyant, il a attiré la colère de l'Éternel envers ses marins. Au moins, il peut sauver en se sacrifiant. Est-ce que c'est plutôt le courage ou la résignation ? Ou alors quelque chose d'autre ? Au lieu d'être résignation, il peut être la détermination. Jonas s'oppose au plan de l'Éternel au point qu'il préfère mourir qu'accomplir le plan de l'Éternel. Peut-être il se dit, si je suis mort, je ne peux pas avertir les habitants de Ninive. Il essaie de s'échapper l'Éternel, même dans la mort. Pourtant, les marins, ils cherchent une autre solution. Ils ne veulent pas sacrifier un passager à la mer, à l'Éternel. Verset 13, ces hommes rament pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Ils rament, littéralement, ils rament, mais ça ne marche pas. Et donc, quelle réponse? Résignation aussi? Courage? Verset 14. Alors, ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Ils acceptent à jeter Jonas dans la mer et ils font. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Il y a deux mouvements parallèles dans ce chapitre. J'espère que vous les voyez bien. Il y a le mouvement de Jonas qui s'enfuit de la présence de l'Éternel, physiquement. Il essaie d'aller plus loin, le plus loin possible pour éviter la mission de l'Éternel, que l'Éternel lui accorde. Mais le mouvement n'est pas seulement physique, c'est également spirituel, ce qui est plus grave. Il est prophète, mais il n'accepte pas son rôle. En même temps, il y a le mouvement des marins. Tout d'abord, au moment de danger, ils ont imploré chacun leur Dieu, mais une fois qu'ils apprennent qui est Jonas, ils sont saisis par une grande crainte de l'Éternel. Puis encore à la fin, quand ils voient que la mer est bien sous l'autorité de l'Éternel, parce que la mer s'est apaisée une fois que Jonas a été jeté dans la mer, ils sont frappés et ils craignent l'Éternel. On peut voir clairement l'opposition entre Jonas et les marins avec la répétition d'un mot dans le contexte, ce texte. C'est un peu difficile à voir parce que le mot est un seul mot en hébreu, mais c'est traduit différemment chaque fois dans ce chapitre. Le mot est kara.
Si ça arrive.
Voilà, c'est kara. C'est plus facile à dire kara que lire en hébreu. Kara. Et on le voit premièrement au verset 2. L'Éternel dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Puis au verset 6, quand le capitaine parle à Jonas qui dormait, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. » C'est toujours Kara. Vous voyez bien la répétition au verset 2, « Lève-toi, crie contre Ninive. » Verset 6, « Lève-toi, fais appel à ton Dieu. » C'est une belle répétition là. Ce sont deux commandements et chaque fois, Jonas refuse. Il ne veut pas crier contre Ninive, le mot kara, ni crier à l'Éternel. Il ne fait pas appel à l'Éternel, encore le mot kara. La troisième fois, on voit ce mot, c'est au verset 14. Et c'est qui crie? Verset 14, « Alors ils s'adressèrent à l'Éternel en diront. » C'est les marins, n'est-ce pas? Cette fois-ci, c'est eux qui s'adressent à l'Éternel. Ils font ce que Jonas a refusé de faire. Il y a donc la mission de l'Éternel, l'appel à crier contre Ninive, et il y a l'appel à crier au secours à l'Éternel, puis on a finalement les marins qui crient à l'Éternel, même avec la soumission à la souveraineté de l'Éternel. Puisqu'ils disent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Voici la crainte d'Éternel. Jonas dit qu'il est hébreu, mais il s'enfuit de l'Éternel. Il dit qu'il craint l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre, mais il est hypocrite. Ces marins ne connaissent pas l'Éternel, mais ils s'approchent à l'Éternel avec une crainte, en disant : toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Comment cet épisode fonctionne-t-il dans le livre de Jonas ? C'est intéressant de voir ces événements qui se sont passés dans l'histoire, mais il n'existe pas une ligne directe entre les événements du passé, directement liés avec nous. Entre ces événements et nous, on a tout d'abord Jonas, l'auteur du texte, et ses premiers lecteurs ici, le peuple d'Israël. Comment cet épisode fonctionne-t-il pour eux ? Jonas s'est présenté comme il a agi dans cette situation. Jonas, l'auteur, ne cache pas la réalité de Jonas, le personnage, dans le texte. En fait, c'est en présentant Jonas, le personnage, que Jonas, l'auteur, attire l'attention des lecteurs vers leur propre faute similaire à celle de Jonas. Notamment, à quel point est-ce que le peuple d'Israël est prêt à s'identifier comme Jonas, comme un peuple qui craint l'Éternel, le Dieu de la création, mais aussi comme Jonas, un peuple qui n'est pas prêt à obéir ce Dieu. Même face à la réalité de la souveraineté de Dieu, de l'Éternel manifesté par son contrôle sur la mer, l'image par excellence du chaos, face à cette réalité, Jonas refuse toujours de s'humilier devant Dieu, tout en s'identifiant comme hébreu, quelqu'un qui fait partie du peuple choisi de l'Éternel, sans étant vraiment un homme de Dieu, ni même pas un prophète de ce Dieu. Quel message pour les lecteurs en Israël ? C'est assez subtil. C'est un peu en mode de satire. Les premiers lecteurs, ils peuvent se moquer de Jonas. Il est bête, il est prophète de l'Éternel, il essaie de s'enfuir de la présence de l'Éternel, c'est fou ! Mais c'est comme ça avec la satire. En riant, on voit la vérité. En se moquant de lui, peut-être ils se rendent compte qu'ils se mettent plus de confiance dans leur statut en tant que peuple choisi que dans celui qui a donné ce statut, l'Éternel. En mettant plus de confiance en la religion que dans celui qui leur a offert une relation, la relation de l'Alliance. Puis ils apprennent à travers des marins que l'Éternel est plus grand qu'ils pensaient. Dans ce contexte de énotisme, où chaque territoire a son propre Dieu, et l'Éternel, il a bien la terre promise à ces territoires, il est possible qu'ils pensent que l'Éternel est seulement leur Dieu, seulement le Dieu d'Israël, et ne pas le Dieu de toute la terre, ni le Dieu de Ninive. Mais si l'Éternel a vraiment créé la mer, la terre, si ça c'est plus qu'une affirmation intellectuelle, si c'est plus que quelque chose qui disent les gens d'Israël, si c'est une vérité, une réalité, qu'est-ce que ça implique ? C'est lui qui a envoyé la tempête et c'est lui qui l'a calmé. Face à la réalité de la souveraineté de l'Éternel, il n'y a qu'une bonne réponse, celle des marins. Éternel, tu fais ce que tu veux. Tout comme Jonas est un miroir pour Israël, on a un miroir devant nous aussi. Si vous vous appelez chrétien et ça n'a pas changé grand-chose, est-ce que vous avez bien compris qui est Dieu ? Jonas, il s'appelait hébreu. En tant que prophète, il a dû connaître le caractère de l'Éternel, qu'il est le Dieu, pas seulement d'Israël, mais de toute la terre. Mais ça n'a pas changé son attitude, ses actions. Israël, eux aussi, ils s'appelaient le peuple choisi de l'Éternel. Ils ont dû connaître le caractère de l'Éternel. C'est l'Éternel qui les a fait sortir d'Égypte. Mais ça n'a pas changé leur comportement. Ils ont suivi les veaux d'or. les idoles, au lieu de suivre le vrai Dieu, le Créateur, l'Éternel. C'est aussi bête pour nous de nous appeler chrétiens et que ça ne change rien. Il est le Dieu de toute la terre. Il est digne de notre obéissance. Il nous a sauvés comme il a sauvé Israël. Si Jonas ici est le contre-exemple, qui est l'exemple? Évidemment, c'est les marins. Ils ont dit, Éternel, tu fais ce que tu veux. Mais qu'est-ce que ça implique pour nous? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, tu fais comme tu veux? Parce qu'il y a des implications. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé pour vous, comme c'est arrivé pour Jonas, que l'Éternel fait comme il veut et on n'aime pas ce qu'il veut. N'avez-vous jamais posé cette question à Dieu? Mais Dieu, pourquoi? Si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme Jonas, se révolter contre Dieu et sa volonté? Dans la souffrance, c'est une vraie question. On ne peut pas rejeter la question « Dieu, qu'est-ce que tu fais là ?» On ne peut pas rejeter cette question en disant le mot-clé « souveraineté ». Dieu, il est souverain, fin question. Mais dans la souffrance, on veut vraiment poser cette question à Dieu. Dieu, que fais-tu? L'idée n'est pas de jamais poser ces questions à Dieu. Il est Dieu tout-puissant et il peut comprendre ces questions. Mais l'idée, c'est d'exprimer la foi pendant la souffrance. Hier, on a lu la méditation personnelle en Matthieu 26, où Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il est confronté par les souffrances de la croix à venir. Et qu'est-ce qu'il prie? Matthieu 26, 39. Puis avança de quelques pas, il se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe soit loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis encore, 42. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe soit loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus, il a demandé au Père de ne pas aller à la croix si possible, mais tout en disant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. C'est un acte de foi, parce qu'il doit mettre sa confiance en le Père, en sachant qu'il est un bon Père. Un Père qui est tout capable. Un Père qui est complètement digne de notre confiance. Voici notre Père aussi, chers amis. Quand on ne sait pas ce qu'il fait, quand on a vraiment du mal à comprendre ce qu'il permet de se passer dans nos vies, quand on souffre et quand on se sent qu'il est absent, on peut mettre notre confiance en lui. Car il est le Dieu qui a fait la mer et le ciel et la terre. Il est le Père qui a donné son Fils unique pour que nous soyons ses enfants. Quel bon Père nous avons. Prions. Notre Père céleste, c'est facile de juger Jonas dans cette situation où elle avait peur de ce que tu étais en train de faire. Il a révolté contre toi. Mais de toute façon, on sait qu'il y a des moments où on ne comprend pas ce que tu fais dans la vie. On a des moments qui nous arrivent, qui nous font demander cette question. Dieu, que fais-tu? Mais on sait aussi qu'on a un très bon exemple en Jésus. Il a mis sa confiance en toi parce que finalement, tu es un bon Père. Tu es souverain, mais pas seulement souverain, tu es aussi bon. On peut vraiment mettre notre confiance en toi. Donne-nous de le faire pendant ces moments difficiles. Donne-nous de vraiment exprimer cette foi, même si on ne comprend pas la vie. On te comprend. On sait ce que tu as fait pour nous. Et c'est là où on se trouve notre confiance en toi. Merci pour ce texte, Jonas. On te prie que tu nous changes, que tu agis par ton Saint-Esprit pour qu'on puisse être plus comme Jésus. On prie dans son nom. Amen.